Bonsoir à tous, à toutes. Bonsoir, je suis très heureux, ainsi que Anne-Cathy Grabert, co-titulaire de la chaire de théologie œcuménique du Centre Sèvres. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette séance et je vous remercie vraiment de votre présence à tous. Je voudrais saluer en particulier la doyenne de l'Institut protestant de théologie, Madame Valérie Nicolet, le directeur de l'Institut supérieur d'études œcuméniques, le Père Luc Forestier, les représentants de l'Institut Saint-Serge, les représentants de la faculté libre de théologie évangélique de Vaux-sur-Seine, entre autres Monsieur Neil Blow, qui nous fait l'amitié d'être présent ce soir, et puis beaucoup d'autres, par exemple le Père Ivan, secrétaire du CSF, Madame Valérie Duval-Poujol, qui est vice-présidente de la Fédération protestante de France, Madame la pasteure Anne-Laure Danet, qui est responsable des relations avec les églises chrétiennes de la Fédération protestante de France, et puis plusieurs autres représentants du Forum chrétien francophone, également d'autres représentants de diverses églises et confessions chrétiennes, catholiques, anglicanes, protestantes, évangéliques, orthodoxe. Merci de nous faire l'amitié d'être présents ce soir. Et dès maintenant, je voudrais remercier à titre tout spécial les deux intervenants qui sont l'un à ma gauche et l'autre à ma droite, donc Monsieur Pierre-Olivier Léchaud de l'Institut protestant de théologie et Monsieur Goran Sekolowski de l'Institut Saint-Serge. Nous les présenterons plus tard durant cette soirée. Cette soirée est organisée, comme vous le savez, dans le cadre de notre chaire de théologie œcuménique qui a été créée il y a un an et qui a pour premier objectif de donner à l'œcuménisme une plus grande visibilité dans notre institution. Il importe en effet que la préoccupation œcuménique ne soit pas seulement le fait de quelques-uns, mais qu'elle puisse de quelque manière marquer les enseignements et qu'elle soit perçue par les étudiants eux-mêmes du Centre Sèvres comme une préoccupation essentielle à la théologie. Et l'objectif de cette chaire est aussi de contribuer pour sa part, même modestement, aux avancées d'une théologie œcuménique dans l'esprit de ce qui caractérise le Centre Sèvres depuis ses origines, à travers le souci d'allier l'étude des grands textes de la tradition, l'approfondissement des questions philosophiques et théologiques et l'attention aux problèmes qui se posent dans la vie ecclésiale. La préoccupation œcuménique s'inscrit depuis longtemps dans ce cadre. Je voudrais simplement rappeler ici l'engagement de l'un de nos grands anciens, le père Bernard Cesboué. Notre chaire de théologie œcuménique entend à sa manière prolonger et actualiser cette belle tradition. Anne-Cathy Grabert présentera en fin de séance nos quelques propositions d'enseignement cette année. Nous serons heureux aussi de donner la parole au père Luc Forestier qui annoncera le colloque des facultés. Mais l'essentiel de notre soirée va être consacré à une réflexion et à un échange autour d'un thème qui nous semble aujourd'hui de grande importance. Nous l'avons intitulé « Quand les Églises racontent leur histoire, la mémoire au service de la réconciliation ». En effet, plusieurs expériences marquantes ces dernières décennies ou même ces dernières années ont attiré l'attention sur la fécondité du dialogue entre telle et telle Église, lorsque ces églises consentent à lire ou à relire ensemble leur passé. Et cet acte de mémoire a effectivement permis de franchir quelques pas importants vers la réconciliation espérée. Nous avons retenu ce soir deux exemples privilégiés. D'abord celui du dialogue entre Mennonites et Luthériens, un dialogue que nous présentera très bientôt Anne-Cathy Grabert. Puis le récent dialogue entre catholiques et luthériens, dont je parlerai moi-même puisque j'y étais directement impliqué. Et après ces deux interventions, nous entendrons Pierre-Olivier Léchaud, qui nous parlera du rapport entre histoire et théologie du point de vue œcuménique. Enfin, Goran Sekolowski réagira à nos interventions en nous disant comment notre sujet de ce soir peut être envisagé du point de vue de l'orthodoxie. Sans plus attendre, je vais laisser la parole à Anne-Cathy Grabert, qui est pasteur mennonite, membre de la communauté du Chemin Neuf, dont il y a plusieurs représentants ici. Elle est membre de diverses commissions œcuméniques, mais auparavant, je voudrais rappeler qu'elle a publié un ouvrage très important sur Marie, une lecture comparée de Redemptoris Mater de Jean-Paul II et du commentaire du Magnificat par Luther, à la lumière précisément des dialogues œcuméniques, et elle enseigne en théologie systématique au Centre Sèvres. Elle est aussi membre du comité de rédaction de la revue Unité des chrétiens. Je disais, elle est membre de plusieurs commissions œcuméniques, le groupe des Dombes, Foi et Constitution, et la commission de dialogue entre la Communion mondiale des Églises réformées et la conférence Mennonite mondiale. Et c'est plus précisément à ce dernier titre qu'elle va maintenant prendre la parole.
Merci. 22 juillet 2010, Stuttgart en Allemagne, sont côte à côte les responsables de la Fédération luthérienne mondiale, la conférence Mennonite mondiale, entouré par les grandes familles ecclésiales, l'archevêque de Canterbury, Rowan William à l'époque, le Conseil pontifical pour l'unité des chrétiens, les représentants du patriarcat de Constantinople, les réformés, les pentecôtistes, etc. Pourquoi la Fédération luthérienne mondiale interrompt-elle les travaux de sa 11e assemblée, instance suprême de réflexion et de décision? Pourquoi la plupart des traditions chrétiennes se sont-elles déplacées? L'événement de ce troisième jour d'assemblée concerne une blessure ecclésiale qui a traversé un demi-millénaire, pesant sur les croyants de deux traditions, luthérienne et évangélique mennonite. Cet événement, fruit d'un long processus, va inaugurer d'autres initiatives visant la guérison des mémoires, démarche aujourd'hui incontournable de l'œcuménisme. Mais j'ose une question plus personnelle. Pourquoi avoir accordé autant d'importance à un événement qui concerne une tradition ecclésiale si peu connue, et il faut le dire, si petite numériquement? Il y eut un événement déclencheur. En 1980, la Fédération luthérienne mondiale souhaita commémorer les 450 ans de la confession d'Augsbourg, donc confession de foi écrite symbolique structurant la foi luthérienne. À cette occasion, elle invita fraternellement l'Église mennonite, laquelle souhaitait répondre positivement, tout en partageant son questionnement. Comment pouvait-elle, pour sa part, honorer un tel document? En effet, et cela est peu connu, mais à la fin de chaque article de cette confession de foi, sont condamnés, déclarés anathèmes, les anabaptistes et leur doctrine. Autrement dit, cette célébration de la confession d'Augsbourg en 1980 faisait remonter à la mémoire des Mennonites le rejet et les persécutions officielles dont leurs ancêtres avaient été victimes et leurs conséquences concrètes dans l'histoire. Alors, il faut le dire, à cette époque bouillonnante du XVIe, était qualifiée d'anabaptiste tout révolutionnaire, extrémiste, auquel les Mennonites ont été ensuite indûment associés. Alors, il est peut-être nécessaire de faire un bref détour ce soir pour présenter brièvement, bien sûr, cette tradition. Le terme anabaptiste au XVIe siècle est un mot péjoratif à l'origine, signifiant rebaptiseur. Les anabaptistes ou leurs héritiers, les mennonites, insistent sur ce qu'ils nomment le baptême des croyants, c'est-à-dire un baptême après confession de foi explicite, ce qui signifie qu'il est impossible de baptiser un nourrisson. Ne peuvent être membres de l'Église que celles et ceux qui ont confessé leur foi publiquement, d'où l'appellation Église de professants ou Église de confessants. Cette tradition met l'accent également sur la Nachfolge Christi, la suite du Christ, le changement de vie, avec notamment le choix de la non-violence comme signe des moyens autres que l'Évangile nous demande d'employer. Par ailleurs, les Mennonites ont été les premiers défenseurs de la séparation de l'Église et de l'État. On peut les considérer comme les précurseurs des Églises évangéliques. La persécution à leur endroit fut massive, que ce soit du côté luthérien ou catholique. Ce n'est pas tant le souvenir des persécutions qui a été entretenu dans la tradition mennonite que l'enseignement de la non-violence évangélique dont témoigne l'histoire de leurs martyrs. Histoire transmise jusqu'à ce jour. Dès lors, l'on comprend mieux pourquoi l'invitation d'honorer la confession d'Augsbourg en 1980 a rencontré des sentiments mitigés. La Fédération luthérienne mondiale a entendu avec beaucoup de bienveillance les hésitations et les questions posées par les Mennonites. Un processus de dialogue s'est alors mis en place, tout d'abord à des niveaux régionaux et nationaux, puis, en 2002, au niveau international. Une avancée importante eut lieu lorsque cette commission prit conscience que les différences théologiques qui persistent entre nos deux traditions ne pourraient pas être étudiées honnêtement et fructueusement sans que l'héritage des persécutions ne soit directement affronté. Elle découvrit alors qu'il n'y avait pas de récit commun des événements cruciaux du XVIe siècle. La commission se donna pour objectif d'approcher le plus possible de ce qu'elle a appelé le « right remembering », on pourrait dire le souvenir juste. Qu'est-ce que cela signifiait? Il s'agissait de relire l'histoire de la Réformation de telle manière que chacun puisse se reconnaître dans cette narration. La commission d'études précisa alors que cela suppose, je cite, un engagement à ce que ma propre histoire puisse être jugée par le drame plus large du mouvement de Dieu dans l'histoire. La difficulté de la tâche a été soulignée dès le début de ce travail de relecture commune. La commission d'études souligne qu'il s'agit, en fait, tant du côté luthérien que mennonite, d'être prêt à questionner ce qui fait notre identité même, notre piété, la façon dont nous nous comprenons. Concrètement, pour les luthériens, le témoignage de la confession d'Augsbourg fait autorité et façonne en quelque sorte leur identité. Pour les mennonites, le témoignage des martyrs anabaptistes est une histoire vivante et vitale, car elle enseigne l'amour de l'ennemi et façonne aussi notre identité même. La question que nous nous sommes adressée mutuellement a été la suivante. Comment pouvons-nous, pouvez-vous, vous distancier des condamnations et de leurs conséquences pour les luthériens, ou de l'histoire des martyrs pour les mennonites, en continuant à honorer votre histoire et votre identité, en continuant à honorer votre histoire et votre identité? Cette question nous ramène directement au 22 juillet 2010 à Stuttgart, dont je parlais tout à l'heure, et à mon interrogation initiale. Pourquoi avoir accordé autant d'importance à un événement qui concerne une tradition ecclésiale si petite numériquement? Rowan William, alors archevêque de Canterbury, affirma qu'il s'agissait ici de manifester que la rupture ou le manque de communion, comme d'ailleurs le processus de restauration de celle-ci, affecte tout le corps ecclésial. En ce sens, il a été clairement dit que cette démarche, je cite, « n'est pas bonne seulement pour les luthériens et les mennonites. La souffrance de notre séparation n'a pas été supportée seulement par nous, elle est une blessure pour tout le corps du Christ. De même, la réconciliation entre luthériens et anabaptistes mennonites est une guérison pour tout le corps. » La réécriture commune de l'histoire et le choix d'une démarche liturgique de repentance ont fait l'objet de vote des délégués luthériens après un long processus synodal. Ce vote final a eu lieu ce fameux 22 juillet 2010 et il est apparu combien la démarche rationnelle, intellectuelle, ici de type historique, théologique, n'était en rien séparée de la démarche liturgique et vice-versa. En effet, il y a eu un va-et-vient constant entre les textes, les débats ecclésiaux, les votes et la prière. Je peux passer peut-être une... Donc vous voyez l'assemblée luthérienne, les délégués de cette, au moment du vote, pour savoir si enfin cette démarche pouvait avoir lieu ou non. Et c'était précédé par un temps de prière personnelle ou de silence. Cette histoire aurait pu rester européo-centrée. Or, ce ne fut pas le cas. En particulier grâce à deux chevilles ouvrières de ce processus, deux Zimbabwéens, qui ont accepté de prendre en charge et d'assumer ce passé de division si typiquement européen. Ishmael Noko, alors secrétaire général de la Fédération luthérienne mondiale, introduit le vote final, ce que vous voyez donc sur la diapositive, en comparant la division ecclésiale à un poison qui certes peut rester silencieux, mais frappé à tout moment. Je le cite. Il dit « J'ai décrit l'histoire de ces condamnations comme le poison qu'un scorpion transporte sur sa queue. Nous n'avons pas frappé avec ce poison pendant un certain temps, mais nous le portons encore dans notre système. Nous sommes maintenant sur une route qui va nous conduire à expulser ce poison de notre corps, qui va nous permettre de vivre ensemble, avec vous, nos sœurs et frères, en Christ, de façon nouvelle. » Alors Ishmael Noko aura aussi cette expression lors d'un aparté avec lui. Parce que c'était étonnant de voir, on va le voir tout à l'heure, deux membres d'un pays d'Afrique prendre en charge comme cela ce processus. Il dit « Il fallait bien que les fils et les filles héritiers deviennent libres. » De fait, l'Europe, ayant si bien exporté ses divisions, avait besoin de l'Afrique pour cette célébration de repentance et de réconciliation. Donc c'est le responsable du côté ménonite et puis le secrétaire général du côté luthérien. Au cours de cette célébration, des paroles de repentance et de pardon furent alors adressées entre luthériens et ménonites. Je n'en retiendrai ici que quelques extraits significatifs. Les luthériens, tout d'abord. Les luthériens ont confessé qu'en voulant défendre l'Évangile, les réformateurs, tels Luther, Mélenchon, ont eu recours à des stratégies qui étaient en totale contradiction avec ce même Évangile. Ils demandèrent pardon de n'avoir pas compris, je cite, « que le pouvoir cherche à se défendre lui-même, d'avoir trop facilement accepté que la violence soit mise au service de l'ordre et d'avoir oublié ce que cela a coûté aux personnes qui en ont souffert. » Ils regrettèrent aussi tous les portraits peu appropriés, trompeurs et blessants des anabaptistes et des ménonites dus à des auteurs luthériens dans des publications populaires mais aussi universitaires jusqu'à l'époque actuelle. Les ménonites, donc c'est le responsable ménonite avec l'évêque luthérien, un évêque luthérien des États-Unis. Les ménonites, quant à eux, ont confessé avoir parfois revendiqué la tradition du martyr comme un signe de supériorité chrétienne, ce qui a inévitablement conduit à entretenir une identité enracinée dans la victimisation. Ils ont confessé aussi que ceci a favorisé un esprit d'autosatisfaction et d'arrogance et les a rendus aveugles aux faiblesses et aux échecs qui sont aussi une trame de fond de leur tradition. De plus, les ménonites reconnurent avoir réduit considérablement l'apport théologique, voire déformé l'enseignement théologique des réformateurs en raison de leurs actes. Cette confession ménonite a eu lieu au moment où était offert aussi un objet symbolique que vous voyez dans les mains du... Non, c'est tout à l'heure. Vous voyez dans les mains de l'évêque. Donc c'est en fait un ustensile qui sert pour le lavement des pieds dans les communautés ménonites, puisque c'est un rite qui est encore pratiqué relativement régulièrement. Et c'était en ce sens que cette confession était faite. Ces paroles ont été suivies d'un geste d'onction d'huile, symbolisant la guérison et le pardon, geste accompagné des paroles en Ézéchiel 36, 26, que Dieu te donne un cœur neuf et un esprit nouveau. Initié par les responsables luthériens et ménonites, ce geste a ensuite été partagé par chaque participant. Cette démarche de demande de pardon et cette promesse d'un esprit nouveau a de fait ouvert la voie à des possibilités ecclésiales et œcuméniques inédites qui nous ont placés en situation de responsabilité dans le monde. Tel était aussi le témoignage que voulait rendre cette célébration de réconciliation. En effet, elle s'est conclue par des témoignages à deux voix, luthéro-ménonites bien sûr, de Colombie, d'Afrique, d'Allemagne, qui attestaient de la volonté d'envisager l'avenir ensemble sous le signe de la diaconie, c'est-à-dire en coopérant concrètement, ensemble, dans une même mission, pour la justice et la paix. On songe alors immédiatement, c'est ce qui a été cité, à la promesse du livre d'Ésaïe, 2, verset 4, « De leurs épées, ils forgeront des socs, et l'on n'apprendra plus la guerre. » Il ne s'agit pas d'une substitution du soc de charrue à l'épée, mais bien d'une transformation. L'arme qui a le pouvoir de blesser et de donner la mort est celle qui devient l'instrument qui donne la vie. Tel est le retournement que rend possible l'Évangile et ce que voulait signifier cet engagement commun à la diaconie. Donc tous ces engagements se sont faits devant cet autel. Auparavant, il avait des ornements violets et on écoutait des récits de martyrs. Puis ensuite, il a été déposé des ornements blancs, le symbole du lavement des pieds. Et puis, je voudrais signaler aussi une icône qui a été faite par des orthodoxes bulgares et qu'ils ont faite spécialement pour cette célébration. Donc, c'est le martyr le plus emblématique de la tradition mennonite, Dirk Willems. Ce long travail d'anamnèse commune, avec une célébration explicite de demande de pardon, a rendu possible un dialogue théologique trilatéral, non seulement entre mennonites et luthériens, mais aussi en intégrant les catholiques. Ce dialogue trilatéral sur le baptême vient de se terminer. Le texte est en cours de réception. Et cette réception prendra du temps pour la partie mennonite, en raison, selon moi, c'est une remarque personnelle, en raison de l'appel final à accepter plusieurs défis. L'un des principaux est d'entendre, je cite, et reconnaître la souffrance exprimée par les traditions luthériennes et catholiques lorsque nous baptisons quelqu'un qui a déjà été baptisé enfant dans leur Église, ce qui leur renvoie l'idée que nous considérons leur baptême comme non valide. Donc une des propositions concrètes faite par la partie mennonite de ce dialogue, est alors, lorsqu'un tel cas se présente, celle de ne plus répéter le rite d'eau, mais de proposer uniquement une confession de foi publique. Reconnaître qu'une pratique ecclésiale de sa tradition peut faire souffrir l'autre ou les autres églises, et dans ce cas, accepter que celle-ci soit questionnée, tel est l'enjeu, et certainement pas le plus simple, du travail œcuménique. Mais la partie mennonite ajoute aussitôt, et je terminerai sur ces mots, travailler ensemble à l'unité du corps du Christ élargit notre fidélité à l'Évangile, plutôt qu'il ne la réduit, comme nous l'avons craint parfois. Nous avons encore beaucoup à apprendre sur la pratique fidèle de la diversité réconciliée.
Il m'incombe d'intervenir en deuxième lieu pour évoquer une autre expérience dans laquelle j'ai été moi-même engagé, celle du dialogue récent entre catholiques et luthériens. J'ai eu l'occasion d'en parler il y a 2 ans, je crois, à l'église de Pentemont réformée. Je suis heureux de saluer à cette occasion le pasteur Andreas Loff et Anne-Françoise Loff, ainsi que le pasteur Christian Bacué, nos voisins. Et je voudrais en parler aujourd'hui d'un autre point de vue, en rappelant d'abord que une commission internationale, la commission internationale de dialogue entre luthériens et catholiques, a été chargée de préparer le 500e anniversaire des origines de la Réforme. Comme vous savez, traditionnellement, ces origines de la Réforme sont situées dans l'année 1517, l'année où furent affichées sur les portes de l'église de Wittenberg les fameuses thèses sur les indulgences et sur un certain nombre d'autres sujets alors controversés. L'année 2017 marquait donc le cinquième centenaire de cette date et elle est inaugurée par une célébration œcuménique à Lund, en Suède, le 31 octobre 2016, célébration dans la cathédrale de Lund. Célébration à laquelle participaient à la fois le président de la Fédération luthérienne mondiale, Monim Younan, assisté du docteur Martin Junge, et le pape François, assisté du cardinal Koch, préfet du Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens. L'image est en soi saisissante. Quelques 500 ans après la rupture entre luthériens et catholiques, une célébration était co-présidée ce jour-là, en Suède, par le président de la Fédération luthérienne mondiale et par l'évêque de Rome, tous deux côte à côte et vêtus de la même manière avec leur robe blanche et leur étole rouge. En ce qui avait rendu possible cet événement, c'est notamment une expérience qui avait été vécue les années précédentes dans le cadre de la Commission internationale de dialogue entre luthériens et catholiques. Cette commission, composée d'une vingtaine de membres originaires de différents pays, d'Europe, des Amériques, d'Afrique, d'Asie, cette commission avait donc reçu en 2009 la mission de préparer un document en vue de cet événement, la commémoration de 2017. Notre commission s'est donc mise au travail et elle a abouti en 2013 au document intitulé « Du conflit à la communion ». Il nous est apparu très vite que pour avancer vers une réconciliation entre catholiques et luthériens, il fallait prendre le temps de relire ensemble le passé, ou tout au moins quelques décennies de ce passé, celle où avait pris naissance la séparation entre luthériens et catholiques. Nous l'avons donc fait, et c'est ce qui a donné lieu au chapitre 3 du document, chapitre intitulé « Esquisse historique de la réforme luthérienne et de la réaction catholique ». Bien entendu, le document contient aussi d'autres développements, et en particulier un long développement au chapitre 4, sur la manière dont on peut aujourd'hui évaluer les principaux thèmes de la doctrine luthérienne à la lumière des dialogues œcuméniques. Mais je crois vraiment que la lecture commune du passé est, dans une large mesure, ce qui a rendu possible tout le reste. C'est parce que nous avons pu nous entendre sur ce récit des origines et parce que nous avons pu le raconter ensemble que nous avons pu aussi avancer sur d'autres points et formuler au terme des convictions communes en vue de la réconciliation ecclésiale. Bien sûr, si nous avons été en mesure de relire ainsi notre histoire, c'est entre autres parce que nous bénéficions désormais de travaux historiques qui, depuis une cinquantaine d'années au moins, ont donné une image plus juste de la période médiévale et des origines de la Réforme. Ces travaux ont aidé à corriger des caricatures qui avaient été souvent répandues durant l'époque moderne. Des caricatures du côté catholique, lorsqu'on présentait Luther comme, je cite, « un moine apostat » ou « un destructeur de la chrétienté », mais aussi caricatures du côté protestant, lorsqu'on dénonçait unilatéralement le comportement des papes et que l'on déformait la théologie de la soi-disant contre-réforme, telle que s'était exprimée notamment lors du Concile de Trente. Positivement, ces travaux historiques ont permis de replacer les positions de Luther et de ses adversaires dans leur véritable contexte. Ils ont permis de découvrir que ces positions s'expliquaient en partie par la situation de l'Église à la fin du Moyen-Âge et au début du VIe siècle. Ils ont permis aussi de réaliser que, sur le fond, ces positions n'étaient pas aussi incompatibles qu'on l'avait souvent cru, et que, dans une large mesure au moins, les divergences tenaient surtout à des modes de pensée différents, ou comme on dit volontiers en allemand, des Denkformen différentes, les luthériens étant davantage attachés à un langage d'abord existentiel, tandis que les catholiques reprenaient plutôt à leur compte un langage ontologique, fort tributaire bien sûr de la scolastique médiévale. Mais tous ces travaux historiques, si importants qu'ils fussent, était avant tout élaboré par des historiens dans le cadre de recherches académiques. Et ces recherches, certes, pouvaient être marquées par une intention œcuménique, mais, sauf exception, elles n'étaient pas passées par l'expérience concrète du dialogue entre luthériens et catholiques. Je dis bien sauf exception, il y en a eu, fort heureusement. Je pense avant tout, bien sûr, à Yves Congar. Or, c'est une telle expérience qui a été vécue dans le cadre de la Commission internationale. Nous ne nous sommes pas seulement informés de ce que disaient les historiens sur les origines de la Réforme, nous avons tenté d'en écrire nous-mêmes le récit. Que s'est-il exactement passé en 1517 et dans les années suivantes? Comment les relations entre Luther et ses opposants se sont-elles durcies? Qu'est-ce qui a été tenté pour mettre fin au désaccord? Et pourquoi ces tentatives n'ont-elles pas abouti? Comment en est-on venu à la confession d'Augsbourg en 1530, puis du côté catholique au Concile de Trente? Ce récit que nous avons tenté est inévitablement succinct, mais il existe. Et je voudrais surtout souligner qu'il s'agit, encore une fois, d'un récit commun. Je dois vraiment dire que la chose n'allait pas de soi. Nous aurions très bien pu imaginer, et nous l'avons imaginé, l'espace d'une fin d'après-midi, que le texte puisse se décomposer en deux parties. Il y aurait eu d'abord le regard luthérien sur les origines de la Réforme et ensuite un regard catholique sur les mêmes origines. Il aurait pu en être ainsi. Mais il nous a été donné d'opter finalement pour un récit commun. Raconter d'une même voix l'histoire de ces années pendant lesquelles s'est creusée la distance entre luthériens et catholiques, ce n'était pas seulement recueillir les fruits des travaux effectués par des historiens depuis quelques décennies, c'était déjà vivre entre nous une expérience de réconciliation. Non sans débat, certes, l'expérience a été parfois une épreuve, mais les désaccords ont été surmontés. Et nous avons pu signer ensemble cette lecture commune de l'histoire qui fut à l'origine de la division entre luthériens et catholiques. Cela même contribuait déjà, en soi, au dépassement de cette division. On pourrait bien sûr objecter, n'y avait-il pas le risque de déformer quelque peu l'histoire des origines? Non plus certes, comme cela s'était souvent fait à l'époque moderne, en donnant des images caricaturales de la réforme luthérienne ou de la réponse catholique, mais au contraire, en donnant une image en quelque sorte édulcorée du passé et en projetant indûment sur le XVIe siècle nos préoccupations œcuméniques du temps présent. Le document du Conflit à la Communion écarte cependant ce risque. Ce qui est advenu dans le passé ne peut être changé. Mais ce dont on se souvient de ce passé et la façon dont on transmet ce souvenir peuvent, au cours du temps, se modifier. Le souvenir rend le passé présent. Si le passé lui-même ne peut être altéré, l'empreinte du passé dans le présent le peut. Dans l'optique de 2017, il ne s'agit pas de raconter une histoire différente, mais de la raconter d'une manière différente. Il n'y avait donc pas à édulcorer le passé. Et nous avons au contraire rappelé les incompréhensions et même les violences qui l'ont marqué, en montrant d'ailleurs que ces incompréhensions et ces violences ne pouvaient pas être reprochées unilatéralement aux uns plutôt qu'aux autres, mais que les responsabilités étaient en fait beaucoup plus partagées qu'on ne l'a souvent dit. Il n'y avait pas à édulcorer le passé, mais l'enjeu était par contre de le raconter ensemble, en étant mus les uns et les autres par le désir commun de la réconciliation ecclésiale. L'histoire racontée n'était pas une histoire différente de celle à laquelle la science historique donne aujourd'hui accès, mais elle était racontée d'une manière différente, du simple fait qu'elle était lue à partir d'un point de vue nouveau, celui de la communion espérée. C'est ce désir de l'unité ecclésiale qui, rétrospectivement, nous a permis de voir autrement des événements du XVIe siècle. Ce désir de l'unité ecclésiale inspirait en effet de reconnaître avec douleur tout ce qui, dans ces événements du XVIe siècle, avait suscité ou favorisé la division. Mais ce même désir de l'unité ecclésiale rendait aussi attentif aux tentatives de réconciliation qui, malgré tout, avaient vu le jour dans cette période même. Et enfin, ce même désir de la communion ecclésiale nous permettait d'identifier ce que j'appellerais des lieux de bifurcation. Je veux dire, des situations en 1518 ou 1519 ou un peu après, des situations où il aurait été encore possible d'empêcher la division, ce qui n'avait pas été fait à l'époque, mais qui, de soi, aurait pu l'être. La lecture commune du passé aidait par le fait même à ouvrir ou réouvrir des possibilités de réconciliation qui, bien que fermées à l'époque, étaient et sont de nouveau envisageables à notre époque. Nous ne nous doutions pas, lorsque nous avons écrit ce document du conflit à la communion, qu'il servirait de base à la célébration œcuménique de Lund le 31 octobre 2016. S'il en a été ainsi, c'est notamment à cause des 5 impératifs œcuméniques sur lesquels s'achève notre document. Je n'ai mis ici que le premier de ces impératifs, il y en a 4 autres. Il est vrai que ces 5 impératifs ont eu un très grand impact. Mais je crois profondément que ce qui a justement rendu possible cette finale du document, ces fameux impératifs œcuméniques, c'est dans une large mesure l'expérience que nous avions faite de relire et de raconter d'une même voix les origines de la réforme luthérienne et de la réaction catholique à cette réforme. Certes, la célébration œcuménique de Lund est seulement un jalon sur la route de la pleine réconciliation, qui reste encore l'objet de notre espérance. Mais cette célébration de 2016 est en soi un événement majeur sur ce chemin. Et je voudrais en particulier évoquer un moment de cette célébration de Lund qui a été important et émouvant entre tous. Chacun des 5 impératifs œcuméniques a été lu solennellement. Or, après la lecture de chaque impératif œcuménique, chaque engagement que nous prenions ensemble, un enfant remontait toute la nef de la cathédrale de Lund dans le noir, ou presque dans le noir, mais avec une bougie allumée, jusqu'au moment où elle passait devant les responsables actuels de nos églises, qui étaient dans le chœur, qui étaient côte à côte, puis l'enfant passait près de l'autel et gravissait encore une 15aine de marches pour aller tout en haut, allumer un cierge. Je vois là un magnifique symbole de ce qui nous incombe. Retraverser la longue nef des siècles écoulés, avec toute l'obscurité et même la noirceur des divisions qui les ont marquées, mais retraverser cette nef avec la lumière d'une bougie, celle-là même que nous procure le désir de la communion. Et puis parvenir dans le cœur où nos responsables d'église se trouvent déjà au moins côte à côte, même si nous demeurons encore en chemin, passer devant l'autel et gravir encore des marches pour allumer la flamme de l'espérance, en attendant le jour où il sera possible de revenir vers l'autel pour y célébrer ensemble le repas du Seigneur, ce jour où la mémoire du passé sera non point abolie, mais définitivement transfigurée par la joie sans prix de la réconciliation.
Il était évident, après des interventions relatant des exemples de réconciliation, de relecture du passé, bien sûr de convoquer un historien. Donc ce que nous aborderons maintenant, c'est histoire et théologie du point de vue œcuménique. Il semble en effet à Pierre-Olivier Léchaud que l'on ne peut penser la contribution de l'histoire à l'œcuménisme sans réfléchir à ce que l'histoire fait à la théologie, dit-il. Il nous aidera, il nous fera réfléchir à la question du relativisme historique et de la prétention à dire le vrai en théologie. Et du coup, il tentera de penser la question de l'unité à partir de cet horizon. Mais quelques mots à propos de Pierre-Olivier Leschaud. Nous sommes très heureux d'accueillir au milieu de nous. Donc Pierre-Olivier Leschaud est titulaire de la chaire d'histoire moderne de la Faculté protestante de théologie de Paris depuis 2012. Il en a été le doyen de cette même faculté de 2017 à 2019. Il est spécialiste de l'évolution de la théologie protestante entre le XVIe et le XVIIIe siècle et poursuit des recherches actuellement dans deux domaines en particulier, la théologie et l'éthique naturelle dans la pensée réformée et la vision de l'islam dans la pensée protestante entre le XVIe et le XVIIIe siècle. Nous attendons d'ailleurs une publication avec impatience à ce sujet. Parmi de nombreuses activités de recherche, de groupes de recherche, nous noterons qu'il est coordinateur du groupe de recherche en histoire des protestantismes à Paris. Et puis je signale deux ouvrages, sa thèse de doctorat tout d'abord, Un christianisme sans partialité, Irénisme et méthode chez John DeRay, et plus récemment, quelque chose qui nous serait très utile, d'ailleurs je pense aux étudiants ici, c'est une introduction à l'histoire de la théologie, qu'il a dirigé donc, et qui est paru à Genève, chez Labori Fides. En tout cas, merci d'être parmi nous et merci pour ce sujet que vous nous proposez ce soir.
Merci beaucoup. Je voudrais dire à mon tour combien je suis heureux d'être là ce soir pour traiter d'un thème qui, j'en ai un peu peur, et sans doute plus théorique et donc moins alléchant que les exemples de commémoration que nous avons eus ici et qui sont tout aussi importants. Alors comme Anne-Cathy Graber l'a dit, j'aimerais partir d'une thèse ou d'une affirmation, c'est que l'on ne peut penser la question de la contribution de l'histoire à l'écuménisme en faisant l'impasse sur les relations entre histoire et théologie. Il s'agit en effet d'une question qui est toujours à reprendre et qui marque la modernité théologique depuis au moins le XVIIIe siècle, à savoir au moment où des auteurs de tendances diverses ont commencé à soumettre le texte fondateur du christianisme, mais aussi ses principaux dogmes à la critique historique, dans un contexte qui est alors fortement marqué par la polémique interconfessionnelle. Mais ce n'est pas le sujet qui nous occupe ici. Gardons simplement à l'esprit que, de mon point de vue, ce n'est pas tant le dialogue avec les sciences dites dures que la découverte de la nature proprement historique, on pourrait même dire en termes techniques la nature proprement historiale du christianisme, qui constitue le problème de toute théologie chrétienne en régime de modernité. Un problème, je le note au passage, que la théologie dialectique, le postmodernisme ou tout discours prétendant au dépassement de cet horizon n'a pas réussi, à mon sens, à oblitérer. Pour le dire d'un trait, l'approche historique du christianisme, de son texte fondateur et de ses dogmes, comme de ses pratiques et de ses institutions, pose la question de sa prétention à dire un absolu à valeur universelle, celui de Dieu et de ce qu'est l'homme placé devant lui. Car l'histoire, en tant que discipline scientifique, académique, ne connaît pas d'universel, mais seulement du particulier. Par conséquent, il devient impossible de prétendre pouvoir isoler un moment où le christianisme apparaîtrait dans toute sa pureté, dépourvu de tout caractère contingent et donc relatif. À quelque époque qu'on les considère, le christianisme, ses dogmes et ses pratiques sont marqués de part en part et de façon profonde par la contingence, par le relatif. Pour l'historien, le christianisme est donc un phénomène purement historique avec des conditionnements propres à un tel phénomène, à savoir des conditions relatives à une époque, une culture, une vision du monde. Je prends ici un exemple que je connais bien, mais qui me permet aussi d'adresser une critique ad intra protestante, la pensée de Luther. Nous avons trop tendance, en effet, au sein du monde protestant, à aller chercher chez Luther une caution à certaines de nos affirmations théologiques contemporaines. Or, du point de vue de l'historien, Luther ne cherchait pas à répondre aux questions que nous nous posons au début du XXIe siècle. C'est là une idée certes triviale, mais qui doit être prise au sérieux. Luther a pensé, théologiquement parlant, avec une représentation du monde, de Dieu et de l'homme que l'on ne peut séparer de celle de son époque. Il croyait au géocentrisme, il croyait que l'enfer se trouvait sous terre et que les démons intervenaient dans notre monde pour tenter les hommes, les persécuter et passer avec certains d'entre eux un pacte satanique. Il croyait aux sorcières, il pensait aussi que les juifs étaient devenus des esclaves du diable et que les musulmans étaient, comme le pape d'ailleurs, une manifestation de l'antéchrist contre laquelle Dieu avait combattu aux côtés des armées allemandes lors du siège de Vienne en 1529. Or, de toutes ces choses, l'historien ne peut faire abstraction lorsqu'il cherche à comprendre la pensée de Luther, faute de quoi il commettrait une erreur capitale, celle que Lucien Febvre appelait le péché capital en histoire, l'anachronisme. Pour l'historien, Luther n'est donc pas un prophète inspiré, dont la voix nous parlerait encore, ni une sorte de philosophe existentialiste avant la lettre. Il est le produit de son temps et, de ce point de vue, ne saurait être adapté et moins encore réduit à notre époque. De ce que je viens de dire découle le fait qu'il n'y a pas non plus de fil conducteur repérable à travers toute l'histoire du christianisme et qui permettrait d'en dire l'essentiel. Il n'y a pas, contrairement à ce que prétendaient certains théologiens protestants, d'essence du christianisme ou de la foi chrétienne à partir de laquelle il serait possible de prouver la supériorité de telle ou telle confession. Mais il n'y a pas non plus du coup, et c'est là que je souhaiterais en venir, des sens du christianisme parfaitement identifiables derrière les accidents de l'histoire et qui autoriseraient les théologiens à penser à partir d'elles ce que pourrait être un jour l'unité chrétienne. Donc on mesure, me semble-t-il, la difficulté que constitue ce que je viens de dire pour la tâche œcuménique. Naturellement, vous l'aurez compris, j'espère, mon objectif n'est pas d'en demeurer là, mais simplement de faire preuve d'honnêteté intellectuelle tout en essayant de vous montrer que le travail de l'historien n'est pas qu'une annexe du travail du théologien et partant de l'écuméniste, mais qu'il est partie intégrante de toute réflexion théologique et œcuménique en régime de modernité, voire d'hypermodernité. Certes, on pourrait s'arrêter au constat que je viens de poser rapidement. C'est du reste ce que font encore bien trop souvent certains collègues théologiens œuvrant dans les facultés de théologie, souvent protestantes. La diversité irréductible du christianisme et son historicisation étant une réalité indépassable, il ne servirait à rien de vouloir réduire au fond cette diversité chrétienne par la recherche de l'unité. Outre que c'est à mon sens une bien mauvaise façon de concevoir le travail œcuménique, il s'agit aussi d'une forme de relativisme historique qui offre naturellement un certain confort intellectuel. Mais si je pensais cela, je ne serais pas avec vous ce soir. Je suis en effet profondément persuadé qu'entre la voie que j'appellerais dogmatique, au sens où le philosophe Sextus Empiricus entendait ce mot, et qui consiste à affirmer en dehors de toute prise en compte de l'histoire qu'existe quelque chose comme une essence du christianisme, et la voie relativiste, qui affirme quant à elle que la recherche de l'unité est vaine dans la mesure où le christianisme est un phénomène relatif car historique, entre ces deux voies donc, il en existe une troisième que je souhaiterais explorer avec vous dans le temps de parole qui me reste. Comme Sextus dans ses fameuses hypotyposes pyrrhoniennes, je pense que cette troisième voie consiste à chercher toujours et à nouveau le vrai. Mais n'anticipons pas. Je voudrais d'abord noter, malgré l'aspect négatif de ce que je viens de présenter du travail de l'historien, quelques avantages à cette approche-là de l'histoire. Notons d'abord l'avantage que représente, à mes yeux, le constat que j'ai fait tout à l'heure concernant l'écriture de l'histoire. Assumer le caractère historiquement relatif du christianisme permet en effet de mettre en échec une certaine apologétique qui consisterait à considérer que la vérité religieuse finissant par se dévoiler, la diversité et la différence religieuse finiraient quant à elles par se résorber. Face à cette tendance, il s'agit pour moi de transformer ce qui est une conviction d'historien en axiome théologique. Il n'y a pas d'universel qui se cacherait en quelque sorte derrière le particulier. Du moins, je le précise tout de suite, en ce monde. La diversité, l'hétérogénéité nous confronte à une réalité, celle de la pluralité de la nature humaine, de ses motivations, de ses imaginaires, de ses configurations pratiques. Ce que l'histoire semble nous montrer, c'est la primauté de l'individu historique, de ses convictions, de ses idées et de ses représentations sur toute forme de discours dogmatique, théologique, visant à réduire cette diversité. Ce que je viens de dire ici de la réalité humaine vaut aussi, et a fortiori, de la réalité divine. C'est là le deuxième avantage que je note à cette approche. Si existe un absolu, celui-ci demeure insaisissable dès lors qu'il s'agit de le saisir au cœur de l'histoire. Dieu demeure une réalité transcendante que l'on ne peut saisir ou encore moins dominer à travers ses manifestations historiques. L'absolu divin se trouve au-delà de l'histoire et c'est donc une vérité qui demeure voilée. Vouloir dire Dieu, ou ce qui est pire, prétendre dire ce qu'il est, demeurera toujours une tâche impossible pour le théologien chrétien, surtout s'il entend partir de la réalité historique. Faire l'histoire des représentations se cachant derrière le mot « Dieu » nous conduirait en effet immanquablement au constat que ces représentations sont multiples, contradictoires et surtout profondément dépendantes de la conjoncture au cours de laquelle, au cœur de laquelle, telle ou telle de ces représentations a pu être avancée. Je note un troisième avantage à ce constat. Affirmer le caractère irréductible de l'altérité historique, c'est aussi pour l'historien se sentir appelé à comprendre l'autre pour ce qu'il est, justement et précisément autre. Il y a ici une vocation herméneutique de l'historien qui peut, à mon sens, servir le travail écuménique. Et c'est d'ailleurs ce que je disais ce matin même à mes étudiants de première année. Apprendre à comprendre l'autre du point de vue historique, Augustin, Thomas d'Aquin, Luther, Ignace de Loyola, tenter de saisir ce qu'il fut en son temps, c'est-à-dire essayer de le comprendre pour ce qu'il a été, ce que furent ses convictions, ses idées, sa représentation du monde, avant de porter un jugement sur sa pensée, sa vie, voire sa foi. Tout ceci est un précieux outil pour qui tente par ailleurs de dialoguer avec un autre du point de vue cette fois confessionnel, c'est-à-dire ici et maintenant. Je parle de vocation herméneutique car il me semble que le travail écuménique nous appelle à faire l'effort de comprendre non seulement la logique du discours de l'autre, mais aussi à essayer de se mettre en quelque sorte à sa place, pour le dire trivialement. Or, se mettre à la place de l'autre pour essayer de le comprendre vraiment, c'est exactement ce qu'est censé faire l'historien qui entend éviter ce que Lucien Febvre appelait, je l'ai rappelé tout à l'heure, le péché capital en histoire, l'anachronisme. De ce point de vue, l'histoire telle que je la conçois est une belle école préparatoire au travail écuménique. Quatrième et dernier avantage pour le travail écuménique de cette perspective que je viens d'esquisser. Elle permet de tenir à distance les événements fondateurs et les concepts généraux, la réforme, l'Église primitive, le catholicisme, etc. Des concepts qui trop souvent encore grèvent notre réflexion écuménique. Elle permet de les tenir pour ce qu'ils sont, des événements historiques, c'est-à-dire situés à distance de notre présent et de nos préoccupations. Elle permet, et c'est un mot auquel je tiens, de les historiciser pour les comprendre. Historiciser, c'est-à-dire rendre un événement ou un concept à sa contingence historique, implique qu'il n'y a pas de commencement absolu, pas de moment zéro à partir duquel comprendre la réalité. La réforme, par exemple, n'est pas le point de départ d'un mouvement de renaissance, de réveil de la foi chrétienne au beau milieu d'un engourdissement du christianisme médiéval corrompu. Ça, c'est l'image que bien des historiens protestants présentaient encore jusqu'à il y a une trentaine, une quarantaine d'années. Elle est en fait autant un aboutissement qu'un commencement. Avec la réforme et avec Luther, on ne réinvente pas la poudre, si vous me passez cette expression. On ne retrouve pas l'écriture dans toute sa pureté. On ne découvre pas la grâce, comme si la théologie des pères et celle des théologiens médiévaux l'avaient oubliée. Non, la réalité historique de la réforme est une réalité bien plus complexe. Elle est, théologiquement parlant, le fruit d'un courant précis de la théologie médiévale, l'école néo-augustinienne notamment, revue et repensée par Luther, radicalisée aussi, peut-être. Du point de vue historique, la théologie réformatrice, celle de Luther, mais on pourrait en dire autant de celle de Calvin ou de Zwingli, se tient dans un contexte qui l'explique et permet de saisir aussi son succès. De même, le développement de la théologie de Luther et de ses successeurs ne serait pas compréhensible sans le rapport étroit que son développement entretient avec les évolutions de la théologie catholique au sein de la controverse confessionnelle, des développements eux-mêmes influencés par les affirmations réformatrices. Bref, tout cela, ce travail donc d'historicisation, permet de renverser, dans cet exemple, les vieux mantras protestants au profit d'une approche plus humble de l'histoire de sa propre tradition. Il y a donc des avantages à la perspective que j'ai esquissée en ouverture. Mais ces avantages ne constituent pas encore une réponse au problème que j'ai également posé, ce faisant, à savoir celui de l'universel et de l'absolu du point de vue de l'histoire. Comment dire l'absolu dès lors que nous nous trouvons de part en part marqués par l'histoire? Comment tenter de proposer un chemin d'unité dans un contexte où nos identités confessionnelles sont marquées par une histoire qui les rend particulières, relatives, mais aussi irréductibles les unes aux autres? Je ne crois pas qu'il faille chercher hors de l'histoire ce qui permettrait de dire l'absolu, de même que je ne crois pas qu'il s'agisse de chercher hors de l'histoire ce qui pourrait être un dénominateur commun que nous pourrions ensuite appliquer tranquillement à la réalité. Je suis au contraire persuadé que ce que nous cherchons, nous devons le chercher dans l'histoire, dans un travail de relecture de l'histoire, en assumant ce travail d'historicisation dont je viens de parler, et l'exemple du travail qui a été mené et que nous a présenté Michel Feydeau me confirme dans cette voie. L'historicisation des grands événements et des grandes figures de l'histoire du christianisme, comme celle de ses dogmes, de ses pratiques ou de ses institutions, est en effet un travail à reprendre constamment. Or, ce travail permet de saisir un nouveau point de départ possible pour la réflexion théologique et œcuménique contemporaine. Le vrai en matière théologique n'est jamais l'objet d'un acquis, mais doit toujours être recherché. C'est le sens de cette troisième voie à laquelle je faisais allusion. La comparaison patiente des points de vue par l'historien, son attention aux choix et aux orientations individuelles des acteurs historiques en fonction d'un contexte historique précis, lui permet en effet de fonder une conviction personnelle, d'aller vers une décision subjective qui n'a rien de fortuit. Étudier l'histoire nous place en effet devant diverses approches, diverses configurations dont certaines peuvent nous parler. Toute signification historique comporte en effet potentiellement un sens actuel, dans la mesure où nous nous positionnons le plus souvent pour ou contre cette configuration historique. Certes, il se peut que telle signification historique reste pour nous lettre morte, mais il se peut aussi que nous nous sentions appelés par tel autre et que cet appel dépasse même le sens de notre recherche historique pour nous engager à un agir ici et maintenant. Le travail historique rend en effet possible que telle figure, telle théologie, telle lecture du christianisme, de sa foi et de ses pratiques, une fois rendue à son historicité et à sa relativité historique, puisse révéler une capacité d'appel, revêtir le statut d'une parole qui nous est adressée individuellement et subjectivement au-delà de nos propres convictions confessionnelles. Il est donc toujours possible que l'histoire nous déplace. C'est là que je vois l'importance de l'approche historique pour notre travail œcuménique. Bien sûr, cela implique une capacité à se laisser interpeller, mais qui est justement rendue possible dès lors que nous renonçons à envisager l'histoire au prisme d'une vérité théologique réputée supérieure. Une telle approche de l'histoire est donc censée réveiller notre capacité à nous laisser interpeller par ce qui est différent de notre propre orientation théologique et surtout confessionnelle. Pour le protestant que je suis, il s'agit de se rendre capable d'être interpellé, par exemple, par la foi d'un Ignace de Loyola ou par la critique adressée aux réformateurs par la réforme dite radicale. comprenez-moi bien, il ne s'agit pas de chercher de manière artificielle les points de convergence entre Ignace ou un Balthazar Hubmaier d'une part et Luther ou Calvin d'autre part, mais il s'agit au-delà de Luther et de Calvin d'être à même d'entendre Ignace ou Hubmaier pour ce qu'ils ont dit en leur temps, mais aussi pour ce qu'ils sont encore susceptibles de me dire aujourd'hui, y compris, et à vrai dire surtout, s'il s'agit de déplacer mon identité confessionnelle. Quel est, dès lors, le type d'écriture de l'histoire qui peut découler d'une telle compréhension des choses? Et j'aimerais conclure sur ce point. Comme le philosophe et sociologue Hans Joas, auquel je suis largement redevable dans mon propos ce soir, je suis non seulement convaincu qu'il nous faut historiciser radicalement le christianisme et ses valeurs, mais aussi que nous nous devons de construire ce que Joas appelle des généalogies affirmatives ou positives. On peut en effet voir l'histoire du christianisme comme une succession de ruptures, de guerres, de violences verbales, conceptuelles et bien sûr physiques. C'est là une lecture qui a son importance, car elle a pour tâche de nous empêcher de sombrer à nouveau dans ce vers quoi l'affirmation de l'absoluité de toute religion monothéiste peut nous conduire, à savoir la violence. Mais on peut aussi faire le pari de relire l'histoire du christianisme d'un point de vue positif et affirmatif. Toutes les confessions chrétiennes recherchent l'absolu et toutes les théologies tentent de le dire. Il y a bien là un objectif commun à réaliser dans notre univers conceptuel actuel. Or, et j'en suis persuadé, étudier la façon dont on a cherché à comprendre l'absolu et à le dire par le passé est non seulement utile mais nécessaire pour notre travail théologique et pour notre engagement œcuménique. La recherche de l'unité sur le plan théologique du dialogue œcuménique a donc son pendant sur le plan historique. Faire histoire commune, faire de l'histoire ensemble, comprendre ensemble le passé en éclairant une même réalité du point de vue de notre confession, mais dans le dialogue avec autrui, voilà la tâche historique qui est encore largement devant nous. C'est du reste ce que nous tentons de faire dans notre enseignement commun de l'histoire des réformes à l'Institut supérieur d'études œcuméniques. Je suis très heureux d'ailleurs que Neil, avec qui j'enseigne, entre autres, à l'ISEO, soit présent ce soir. En relisant à trois voix, en l'occurrence catholique, mennonite et luthéro-réformée, l'histoire des réformes, notre but n'est pas de défendre notre sphère confessionnelle propre, bien sûr, mais non pas non plus de proposer une histoire édulcorée, lisse et sans aspérité, mais bien de reconstituer les réformes du XVIe siècle en saisissant les conditions historiques, en les comprenant au sens le plus profond du terme dans leur altérité historique, mais aussi en se laissant interpeller par le regard de l'autre sur celle-ci. L'autre aux deux sens du terme, c'est-à-dire l'historien non luthéro-réformé, dans mon cas, et toutes les expressions de la foi qui, au XVIe siècle, ne sont pas celles des réformateurs. Faire histoire commune est, à mon sens, une tâche fondamentale et qui est encore largement devant nous. J'aimerais donc conclure mon propos en lançant un appel, une proposition, à partir d'un constat. Je constate que nous avons de très nombreuses et très bonnes histoires du protestantisme en France. Nous avons d'excellentes histoires du catholicisme en France. Nous avons quelques histoires de l'orthodoxie en France. Mais nous n'avons pas d'histoire œcuménique du christianisme en France. Et le Suisse que je suis est très heureux de relever que les Suisses ont relevé ce défi il y a de cela 20 ans en faisant paraître en 1999 une histoire œcuménique du christianisme en Suisse. Il me semble que ce serait un beau projet à entreprendre dans l'esprit que nous avons dessiné ce soir. Avis aux amateurs.
Merci pour cet appel lancé, surtout ici. Je pense qu'il peut peut-être trouver réception, je ne sais pas. En tout cas, j'espère. Et puis nous poursuivrons de toute façon l'échange avec vous tout à l'heure par un temps de questions-réponses, mais il nous paraissait impossible de ne pas continuer sans un troisième regard, une troisième voix, qui bien sûr est celle de l'orthodoxie. Donc nous sommes très heureux d'accueillir parmi nous Goran Sekulovski, qui réagira à nos interventions en nous disant comment ce sujet, le sujet de ce soir, peut être envisagé du point de vue de l'orthodoxie, et comment lui-même réagit à ce qui a été dit. Quelques mots pour présenter Goran Sekulovski. Il est professeur en patrologie à l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge. Il enseigne aussi à l'Institut catholique de Paris, l'Institut supérieur d'études œcuméniques, donc avec Pierre-Olivier Léchaud aussi, ainsi qu'au Centre Sèvres. Il enseigne également depuis 2017 à l'Institut national des langues et civilisations orientales à Nilalco. Il est membre de l'Association internationale d'études patristiques et ses travaux portent à la fois sur l'héritage des pères de l'Église, mais aussi les rapports entre ecclésiologie et politique, notamment dans les Balkans, plus généralement sous le monde orthodoxe. Alors parmi un très grand nombre de publications, nous pourrons noter en particulier une récente, en 2019, au CERF, l'échiquier macédonien, religion, politique, territoire. En tout cas, merci d'être parmi nous.
Merci à vous aussi pour l'invitation. Merci pour les beaux exemples, aussi bien par Anne-Cathy que par Michel. Et merci à Pierre-Olivier d'avoir rappelé le péché capital historique qui est l'anachronisme. Ce soir, je vais essayer de parler de péché capital géographique qui est l'anatopisme, à savoir transposer des concepts et des idées d'un autre monde dans un monde tout à fait différent qui est l'orthodoxie. Mais avant d'entrer dans la vue du sujet, à savoir présenter l'orthodoxie entre l'histoire, mémoire et réconciliation, permettez-moi tout d'abord à me livrer à quelques préliminaires. Tout d'abord, la notion de la temporalité, qui me semble un élément important de la conscience humaine. Aujourd'hui, le passé semble peser de plus en plus et met à jour de nouvelles articulations entre la mémoire et l'oubli. Quels sont donc les enjeux de la conservation de la mémoire et de l'oubli? Peut-on faire table rase du passé pour reprendre une expression devenue courante au nom de la modernité et de la projection vers l'avenir? Pour Nietzsche, par exemple, la faculté d'oubli rend possible un certain nombre d'expériences. Le bonheur étant possible seulement dans le présent. Le mouvement de mai 68 en y est également l'héritage du passé et de ses symboles. En musique, par exemple, Boulez ou Stockhausen furent les compositeurs de la table rase esthétique au point que Boulez disait « il faut éliminer absolument toute trace d'héritage » dans le vocabulaire. Donc cette critique systématique du passé a pu avoir aussi une dimension de catharsis. La mauvaise conscience d'actes jugés répréhensibles peut nous faire vouloir oublier le passé. Par exemple, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, de nombreux États ont cherché à oublier le génocide du peuple juif. Cependant, au XXe et XXIe siècle, me semble-t-il, de manière générale, on assiste davantage à un élargissement du territoire de la conservation plutôt qu'à sa négation. Ce qui change en fait, me semble-t-il, ce sont les canons ou les critères de ce qu'il faut ou non conserver. Le patrimoine semble pouvoir nous prémunir face à la perte de mémoire, devenir une valeur refuge à un avenir qui peut apparaître comme plutôt incertain face à un monde en perte de sens. Paul Ricoeur se demande pourquoi le devoir de mémoire représente pour nous un impératif. Il préfère parler de travail de la mémoire. La mémoire malheureuse, pour lui, peut être transformée en une mémoire pacifiée grâce au travail de l'historienne évoquée par Pierre-Olivier. Donc, qu'en est-il de la temporalité dans l'orthodoxie ainsi que sa compréhension au service de la réconciliation? Afin de comprendre cette position, donc j'évoque cet anatopisme, il me semble que, au lieu d'écumer l'actualité, il s'agit auparavant de saisir l'orthodoxie telle qu'elle même se conçoit et se représente, ce qui est une condition pour comprendre en quoi sa singularité de constitution engage un mode non moins singulier de sécularisation religieuse et de polarisation politique. Donc tout d'abord, c'est au sens de la transmission d'une expérience vécue et d'une mémoire vivante du Christ dans la contemporanéité à sa présence parmi nous, et non pas en vertu d'un infaillible, d'une infaillibilité institutionnelle ou d'une adhésion subjective, que l'orthodoxie se veut l'expression de la juste foi dans la juste louange. Donc elle pose pour seul critère de vérité l'advenue du royaume où s'établit ici et maintenant la communion réelle au Verbe mort et ressuscité. Ainsi, l'articulation entre le temps et l'éternité, ici, n'est ni celle cyclique de l'Asie, ni celle, me semble-t-il, vectorielle de l'Occident. Pour le qualifier de quelque façon, il faudrait, à mon avis, le dire plutôt épiphanique, animé par un mouvement en spirale, qui entretiendrait un incessant affleurissement mutuel. Après avoir fait mémoire des grands actes du salut, dont l'incarnation, la croix et la résurrection, l'Eucharistie orthodoxe commémore comme advenu le second retour en gloire qui verra la fin des temps. Entre le déjà là et l'encore à venir, à la jointure du créé et de l'incréé, la vérité s'authentifie elle-même dans l'événement pascal de la sainteté telle que reçue par le peuple de Dieu. Comment maintenant appréhender le rapport entre ces deux temporalités? Il me semble qu'il n'est de géopolitique orthodoxe et religieuse possible, à moins que l'on accepte le postulat, d'ailleurs dénoncé par Pierre-Olivier avec raison, qu'en ce domaine la théologie l'emporte en valeur explicative sur le flux, que l'intuition fondatrice se déploie dans les faits selon une tension créatrice mais ininterrompue, que les facteurs circonstanciels n'influencent le projet premier qu'à la marge, l'atténuant ou l'accentuant sans le déterminer ou le modifier de substance. Donc c'est la théologie qui prime, à défaut de quoi le fait religieux n'aurait pas pour lui la durée dans l'histoire. Maintenant, comment ça s'articule avec l'histoire particulière orthodoxe? Revenu sur la scène de l'histoire à la suite de des siècles d'oppression qu'il avait rendu terne, l'orthodoxie a relevé de manière, à mon avis, contradictoire le défi qui était le sien d'enfin pouvoir s'épanouir en liberté. Dès l'après 1945, la redécouverte des sources communes de la foi chrétienne, menée par des savants orthodoxes en compagnie de leurs homologues catholiques et protestants, avait laissé espérer le renouveau d'une théologie existentielle qui, affranchie des impasses modernes, saurait répondre aux questions angoissées de l'humanité contemporaine. Le dialogue battait son plein à Genève, au Conseil œcuménique des Églises, ou à Jérusalem, où la rencontre du patriarche Athénagoras et du pape Paul VI en 1964 a fait croire proche la résolution d'un divorce millénaire préalable à de plus grandes réconciliations à l'échelle planétaire. Dans les suites de 1968, La voix dissidente d'Alexandre Solzhenitsyn perçait le rideau de fer, élevait le goulag au rang d'un Golgotha, dénonçait l'inhumanité à laquelle conduisait la négation de la transcendance, mortifère sous le socialisme, délétère sous le libéralisme et renvoyait dos à dos les deux systèmes matérialistes. Enfin, par la perpétuation active de son fort corpus ascétique, patristique et mystique, la tradition chrétienne orientale ne constituait-elle pas un contrepoids à la tentation de l'individualisme psychologisant qui puisait déjà volontiers dans les sagesses apophatiques de l'Asie. Cependant, la représentation, à mon avis, a basculé, surtout à partir de 1989. Déjà mieux fondée, l'orthodoxie a neutralisé à son tour l'assemblance en flagrance, le réquisitoire succédant à l'apologie, parce que sur l'écran prévalaient désormais les clichés des prélats orthodoxes baptisant des miliciens devant les murailles de Sarajevo, des hiérarches orthodoxes encensant des oligarques russes sous les dômes du Kremlin, d'éminences absolvant des tyrans sous les décombres d'Alep. L'église confessante d'hier, persécutée par les pouvoirs totalitaires, a ainsi cédé la place dans l'imaginaire, désolé de le dire, à l'église militante d'aujourd'hui, rééditant l'alliance du trône et de l'autel. L'antique a ainsi laissé la place à l'arriéré et le prémonitoire au rétrograde. Qu'elle soit donc conçue négativement ou positivement selon les idéologies qui président à sa formation, cette inversion de perspective relève de l'effet optique. De manière circonstancielle, elle dépend pour beaucoup du nouveau partage politique qui occupe la conscience européenne et des batailles qui s'y livrent les partisans du progrès et de la réaction. Sur le plus long terme, elle dénote que la question orthodoxe reste affaire de perception et non pas de réception. Autrement dit, une telle symétrie montre d'abord combien elle n'a pas varié en statut et qu'elle reste réduite, vue de l'Occident, à un utile miroir déformant. Attraction ou répulsion, il faut y voir le prix que l'orthodoxie acquitte pour avoir constitué, sur un millénaire et demi, un arc de résistance prouvant, à rebours de l'historiographie classique et de la mentalité dominante, qu'il est une autre Église, un autre Orient, une autre Europe et encore un autre schisme que celui entre Rome et la Réforme. L'intégrer donc au tableau forcerait à une difficile révision de la généalogie et de la grille des lectures culturelles, car son existence même renvoie la civilisation occidentale à un conflit originel en filiation à une contestation permanente en droit et en légitimité sur la nature même du christianisme. D'être l'objet donc d'une impensable altérité voue ainsi l'orthodoxie au rôle du tiers convoqué ou rejeté selon l'opportunité. Elle en ressort indifféremment un jumeau angélique qui serait à muséfier ou un double démoniaque qu'il serait à exorcer. Pour autant, aujourd'hui, c'est son état au-dedans qui alimente en premier lieu de telles instrumentalisations au dehors. En dépit de la propension au complot qui agite aisément le peuple inscrit dans son orbite confessionnelle, lesquels souvent, pris au sentiment d'être assiégés, et quoique parfois non sans raison, ces faillites actuelles lui sont propres. Donc la contradiction, qui domine et menace l'orthodoxie de l'intérieur, elle expose aux pressions contradictoires de l'extérieur, tient à la difficulté qu'elle-même éprouve à distinguer, pour moi, entre monde orthodoxe et église orthodoxe. Cette difficulté est révélatrice de la relation singulière qu'elle entretient avec la sécularisation depuis les temps modernes, ces métamorphoses ayant été malheureusement que des pseudomorphoses. Cette altération explique son incapacité à englober les fragmentations qu'elle a subies et continue de subir sous le coup de captation impériale antagonique, dont l'affaire d'Ukraine, qui divise aujourd'hui les patriarcats de Constantinople et de Moscou, et qui constitue le point d'orgue. L'état de morcellement prédominant ces deux derniers siècles a ainsi trouvé, pour image ultime, à l'automne 2018, l'implosion indirecte sous l'œil des caméras de l'Église orthodoxe en des Églises orthodoxes. La crise présente donc que connaît l'orthodoxie vaut certes exemple de concentration sur le feu religieux qu'opère la mondialisation en déplaçant le pivot de l'humanité historique. Mais si la crise orthodoxe au sein de la crise globale dépend pour partie de l'imbrication entre les ordres théologiques et politiques, qui constitue le nœud gordien du moment, encore faut-il la rapporter à l'orthodoxie en ce qu'elle a de particulier et d'irréductible. Le mot même par lequel elle se caractérise représente d'emblée, un obstacle, puisque, au sens commun, il indique une volonté de conformité extensive, complète et réglementaire à un système doctrinal conçu comme une vérité officielle. Or, l'étymologie grecque du terme induit une compréhension plutôt différente. Et orthos, celui qui se dresse et se tient debout, l'humain qui a pour doxa le luminaire et la luminosité qu'il arrive à la obtenir seulement en contact secret et sincère avec le divin. Donc, pour jouer efficacement le rôle écuménique, les orthodoxes ont besoin d'un effort de pensée et de conscience. La vérité dont ils se sentent porteurs, dans la mesure où elle est la vérité catholique, doit être valable pour tous les hommes, à tous les âges et dans tous les pays. Elle doit comporter une réponse aux problèmes réels que les chrétiens d'Occident se sont posés durant les siècles de séparation. Pour porter véritablement leur témoignage, les orthodoxes doivent vivre ces problèmes de l'intérieur. Car il est évident que si l'Église elle-même, dans sa nature surnaturelle, possède toujours la plénitude de vie divine et de vérité, les individus, les groupes sociologiques, les nations et les églises locales sont loin de se conformer partout à cette vie et à cette vérité. Et à cet égard, ce que l'on peut appeler l'orthodoxie historique, cet ensemble social qui délimita et délimite encore l'Église orthodoxe, a beaucoup à se faire pardonner. Son histoire, il est vrai, est une histoire tragique. Les invasions arabes, turques, mongoles, l'épreuve de la révolution russe constituent autant de catastrophes brusques qui interrompent le développement organique de l'Orient chrétien. Sa faiblesse actuelle s'explique largement par là, mais d'autres faiblesses, en tout premier lieu le nationalisme, qui isole les églises orthodoxes les unes des autres, sont imputables aux orthodoxes eux-mêmes. En surmontant donc les divisions nationales héritées du passé, en formant un clergé capable de faire face aux circonstances nouvelles où vit l'Église, en sachant concilier la fidélité à la vraie tradition avec les besoins du monde occidental moderne, me semble-t-il, les orthodoxes d'Occident pourraient donner à leur témoignage un rayonnement tout nouveau. C'est à cela que les oblige leur appartenance à une Église qui affirme être la vraie Église du Christ, et c'est à cela qu'ils seront jugés par l'histoire, par leurs frères, par les autres chrétiens, etc. Donc, enfin, pour ce qui est de réconciliation, ce rappel de l'histoire me semblait indispensable, parce que c'est un voyage dans la mémoire vivante de l'Église, une descente souvent douloureuse dans ses profondeurs, d'où la conscience chrétienne émerge avec une santé et une foi renouvelée, réconciliée avec elle-même et avec l'Église. Comme la mémoire du chrétien, la mémoire de l'Église ne saurait être qu'un perpétuel examen de conscience à la lumière de la vérité. Son histoire donc est faite de chute et de réconciliation. Tout ce qui en elle s'affirme constamment d'humain et de seulement humain doit se consumer au feu de la divinité. Et l'étude de l'histoire de l'Église n'aurait pas de sens si elle ne comportait une recherche de principes ecclésiologiques cohérents et permanents, mais fréquemment, donc enracinés dans la tradition, mais fréquemment submergés par la masse des traditions humaines. En ce sens, l'histoire de l'Église est l'outil indispensable à toute quête légitime d'une théologie de l'unité chrétienne. Car si l'Église n'est pas la société, c'est bien elle qui permet de ne pas désespérer de l'histoire. C'est pourquoi la prophétie ne consiste pas à un pari sur le futur, mais en un rappel du sens ultime du plus profond passé, sans lequel il ne saurait y avoir le moindre avenir. La finalité de la lutte en cours n'est autre que la coïncidence avec l'Évangile, la faculté de répondre avec exactitude du témoignage qu'attendent ceux qui inspirent les trésors bien réels de l'orthodoxie lorsqu'ils la rencontrent dans son évidence eschatologique. La résurrection théologique reste entièrement à l'ordre du jour, tant tout progrès dépend de sa réception par le peuple que cette même théologie dit être de Dieu et non pas soumise à des puissances terrestres qui sont autant d'impuissances à féconder spirituellement l'histoire. Merci.
Nous avons maintenant un bon moment pour un échange entre nous. Un micro va circuler, donc n'hésitez pas, on va recueillir peut-être 3 questions d'abord. On fera par petits groupes de 3 questions. Et puis dites bien à qui vous adressez peut-être cette question aussi. Je ne sais pas qui est chargé du micro, je crois qu'il y avait quelqu'un.
James Trans, pasteur à Courbevoie. J'ai une question peut-être pour tous les deux. Pierre-Olivier a lancé un appel. Comment, si on pouvait écrire une histoire œcuménique, vous avez pu écouter vos deux interventions. Et c'est assez intéressant, vous avez des approches très différentes. Comment est-ce que vous pourriez imaginer, vous deux déjà, d'écrire une théologie œcuménique? Je pense que ce qui était intéressant, c'est que vous étiez tous les deux critiques, une histoire œcuménique de la France. Vous étiez tous les deux assez critiques par rapport à vos propres traditions, tout en étant très ancrés dedans.
Deux autres questions, peut-être?
Du diaconat des femmes, par exemple, et donc du lien avec le synode spécial sur l'Amazonie qui est en train de se passer, et justement ces questions qui ressortent aussi aujourd'hui et hier notamment.
Il y aurait peut-être un travail à faire également, je suis désolé de vous charger, mais on voit apparaître un certain nombre de termes nouveaux que l'on a mis sous l'égide de l'hospitalité langagière. Et c'est vrai qu'un certain nombre de mots nouveaux qui animent la réflexion œcuménique apparaissent, et il serait bien d'en faire la recension. consensus différencié, consensus différenciant, altérité historique, toutes sortes de termes que je n'ai jamais rencontrés dans mes 40 ans d'écuménisme, et ils apparaissent assez nouveaux dans le discours et probablement servent de support à nos réflexions écuméniques. Oui, il serait peut-être bon d'en faire la recension.
Donc, une première question qui est adressée plus particulièrement à vous deux, à Pierre-Olivier et Goran.
Comment écrire une histoire ensemble? Il me semble la critique indispensable. C'est pour cette raison que j'ai insisté sur la crise, parce que si on n'insiste pas sur les péchés existants actuels, il est presque utopique d'envisager de faire autre chose. C'est-à-dire avant de se mettre à écrire une histoire commune, essayons d'abord de dégager une histoire particulière qui est conforme à ce que, par exemple, l'orthodoxie prétend être la continuité d'une tradition remontant à l'époque apostolique. Je suis adepte tout à fait à un écuménisme historique, et je voudrais que ça d'abord soit le cas. Par exemple, dans la situation particulière dans l'orthodoxie aujourd'hui, avec le problème que tout le monde connaît. Or, donc, d'abord, pour résoudre ces problèmes, pourquoi ne voyons pas du côté des apôtres de l'époque apostolique? Donc aujourd'hui, tout le monde se revendique à des critères qui sont tout à fait catastrophiques, l'ancienneté pour les uns, les autres quantité, qu'ils sont le plus, alors ils sont la plus grande église orthodoxe. Et alors, je vais dire, si l'église qui se considère comme une église des sept conciles écuméniques, aujourd'hui on peut pas organiser un concile écuménique, alors comment on fait? On fait comme à l'époque avant les conciles écuméniques. Qu'est-ce que c'était avant les conciles écuméniques? Donc on va appliquer l'ecclésiologie préconstantinienne. Il faut s'inspirer de ce qu'ont fait les apôtres lors de l'ère concile de 49. Il faut convoquer pour moi un concile de Crète panorthodoxe, concile Crète 2, obligatoire pour tout le monde, les enfermer, et tant qu'ils ne trouvent pas une solution, couper tout, tous les vols, couper, tant qu'ils ne trouvent pas une solution, mais obligatoire pour tous, sinon il n'y a pas d'autre possibilité. Donc Crète 2, obligatoire pour tous, avec l'ecclésiologie, parce que sinon ils vont entendre qui va convoquer le conseil écuménique, Poutine éventuellement. Ah, donc c'était, il n'y a pas d'imprère. Donc tout ce qui se passe actuellement, je pense que c'est une catastrophe ecclésiologique. Le Paris, ça se répète bien. Désolé, Père Ivan, si je... En tout cas, à mon avis, il faut revenir à l'époque préconstantinienne, à l'époque des apôtres, et apprendre, parce que sinon, tout le temps, la tradition, l'orthodoxie, l'eschatologie, comme si ça, c'était d'une manière, depuis les origines jusqu'à aujourd'hui, de manière ininterrompue. Donc, il y a un fil rouge, jamais de rupture, jamais de problème. Donc, c'est ça qui est notre problème, la manière de faire de l'histoire, la manière de faire d'une historiographie confessionnelle, apologétique, que vous voyez tous les manuels d'histoire de l'Église dans les pays orthodoxes, c'est vraiment quelque chose qu'il faut pas accepter.
Oui, alors j'avais envie de demander à Goran si ce concile se tient en Crète, si je peux être observateur, parce que ça fait longtemps que je souhaiterais m'y rendre surtout et y être, alors avec un billet de retour éventuellement. Alors, j'ai pas à titre, en tant que protestant, à donner, disons, des conseils à nos frères orthodoxes pour sortir de ce que de cette ornière que décrit Goran. En revanche, ce que je peux dire sur le plan historique, sur le plan historiographique, c'est ce qui, à mon avis, a été salutaire pour le protestantisme dans l'écriture de sa propre histoire. Parce que cette apologétique historique, ce récit des origines, qui d'ailleurs en France empruntait aussi un peu au récit martyrologique, qui est encore présent hein, dans notre conscience, il a, au fond, on a été contraint d'en sortir grâce aux travaux des historiens non confessionnels. C'est la génération des historiens comme Lucien Febvre. On sait, si on creuse un peu sa biographie, quelles étaient ses attaches, entre guillemets, confessionnelles, mais on les chercherait avec beaucoup de difficultés dans ses livres. Ça a été, je dirais, l'ouvrage qu'il a écrit sur Luther, par exemple, Martin Luther, un destin, les articles qu'il a écrit aussi sur la question des causes de la réforme, une question qu'il appelait une question mal posée d'ailleurs, ça a été des articles, enfin des ouvrages extrêmement déterminants pour l'abandon de cette vision apologétique qui était celle de l'historiographie protestante. Et je pense, du reste, je suis intervenu à quelques reprises sur ces questions-là avec Nicole Lemaître, qu'il en a été de même, du reste, pour l'historiographie catholique. Hein, cette prise en compte par des historiens non rattachés confessionnellement des époques difficiles sur le plan de l'unité a été salutaire. Disons, tout le travail qui a été fait pour du conflit à la communion n'aurait pas été possible sur le plan historique sans la contribution de ces historiens-là qui ont eu une vertu, je dirais, un peu curative.
Merci. Pour la question sur l'Amazonie, peut-être Michel? Oui.
Je ne vais pas parler tellement sur. Je vais plutôt reprendre la question du diaconat féminin. Parce que c'est très difficile, c'est impossible de parler directement du synode sur l'Amazonie, parce qu'il faut attendre, c'est trop tôt. Il faut attendre de voir ce qui se dira. Mais par contre, je réponds volontiers sur le fond de la question, par rapport à ce problème, cette question donc, du diaconat féminin. Bon, première chose que je voudrais dire, moi je crois beaucoup, en effet, à l'importance d'une approche historique qui soit, si possible, menée par des historiens, patrologues de diverses églises, de diverses confessions chrétiennes. Ça a déjà eu lieu d'ailleurs, mais parfois de façon un peu séparée. Et je pense que là, c'est typiquement, c'est de façon plus large, hein, c'est les chances du travail patristique, hein, c'est que justement orthodoxes, protestants, catholiques, c'est un patrimoine commun pour nous tous. Et je crois qu'il y a beaucoup à attendre d'un travail patrologique, patristique, qui puisse être mené à plusieurs, entre autres, pardon, sur cette question du diaconat féminin. Mais la seconde considération que je voudrais ajouter, c'est qu'il ne faut pas non plus trop attendre, ou tout attendre de ce travail historique, dans la mesure où le moteur du dialogue doit être la question suivante, qu'est-ce qui aujourd'hui permettrait le mieux de répondre aux appels de l'esprit dans le monde et dans les églises telles qu'elles sont. Alors, bien sûr, en étant informé des dossiers historiques le mieux possible, mais bon, il est possible que sur certains points, on puisse en effet répéter ce qui s'est fait au 2e, 3e, 4e siècle, pour autant qu'on arrive bien à le déterminer. Et puis, sur d'autres points, il y a peut-être matière à invention, figure de ministère, de services ecclésiaux, qui puissent permettre, en 2019 ou dans les décennies suivantes, de répondre aux appels de l'esprit dans le monde d'aujourd'hui. Voilà un peu ce que je dirais. Je ne sais pas si je dis un mot sur le dernier point. Oui, dernière question. Vous avez raison de dire qu'on voit surgir et se développer des mots relativement techniques. Vous en avez cité quelques-uns. Hospitalité langagière. Donc vous disiez oui, consensus différencié. Vous en avez évoqué d'autres. Moi-même, dans mon intervention, j'ai fait allusion au terme allemand Denkformen, hein, des modes de pensée qui sont souvent utilisés maintenant en langage œcuménique. On pourrait rappeler la hiérarchie des vérités aussi. Il y en a d'autres. Alors, tout ça, c'est normal, c'est inévitable. Hein. En même temps, je crois qu'il faut être prudent, parce que très vite, un mot technique qui est légitime lorsqu'il est employé dans un certain contexte, peut être déformé ou dénaturé. On ne perçoit plus son sens exact. Par exemple, je crois beaucoup au consensus différencié, qui a rendu possible notamment la déclaration commune sur la justification par la foi, mais aujourd'hui, j'en viens à éviter le plus possible d'employer ce langage technique, parce que je m'aperçois que souvent, il est mal compris. On croit que ça veut dire compromis, ce qui n'est pas du tout le sens. Voilà. Donc, à la fois, c'est normal, c'est inévitable, et c'est normal, précieux, qu'il y ait des langages techniques qui apparaissent, qui se développent. Mais le plus important, c'est de renvoyer toujours à la pratique même, à l'expérience même du dialogue œcuménique. Et c'est dans le cadre de cette expérience que se forgent parfois des outils nouveaux, des concepts nouveaux, des méthodologies nouvelles.
Merci. On a encore le temps pour quelques questions. Est-ce qu'il y en aurait encore ?
C'est pour le père Michel Fédoux. Quelle sera la continuation ? Enfin, qu'est-ce que vous envisagez comme continuité après le document du conflit à la communion ?
Une question derrière, juste.
Je réfléchissais au lien entre histoire et théologie. Et je me disais, est-ce que finalement l'œcuménisme ne nous invite pas à avoir une conscience de l'histoire ou un sens de l'histoire qui irait dans le sens de l'unité. Voilà ma question.
Moi, je me posais la question de quand est-ce qu'on peut dire que commence l'histoire d'une église ? Est-ce que l'histoire d'une église commence au schisme avec une autre église ? Est-ce qu'elle commence avant ? Est-ce qu'elle commence en fait pas par les évangiles ? Est-ce que le Christ... Et puis, est-ce qu'elle commence pas par le peuple juif ? Bon. Voilà, quand est-ce qu'on peut démarrer ? Ceci, c'est l'histoire d'une église.
L'histoire d'une église, ça dépend qui vous demandez. Normalement, si on parle de l'église avant qu'elle soit confessionnelle, je pense que les origines se trouvent dans ce que Jean Danilou parle de la théologie du judéo-christianisme au moment où l'Église commence à se distinguer théologiquement de l'héritage juif. Donc c'est vraiment le premier siècle. Donc tous les témoignages des pères apostoliques, les pères apostoliques déjà évidemment sont en train de construire une histoire de l'Église. Prenons quelques exemples. La didaké, l'enseignement des douze apôtres, qui était transmis soit par les disciples des apôtres ou disciples des disciples. Je pense que c'est, à mon avis, au premier siècle où il faut chercher la constitution, la construction d'une Église dans le sens pas institutionnel, dans le sens étymologique, et caléo, j'appelle les gens pour qu'ils se ressemblent autour du Christ. Ce qu'ils font, notamment ce qui est décrit dans la Didaké. Ça, c'est vraiment les synaxes sont la base, la quintessence d'une église. Après, si vous voulez, la construction d'une historiographie, ça, c'est un phénomène plus tardif. Les premières histoires, on les trouve chez Zeb de Césarée. Si je ne me trompe pas, c'est peut-être la première histoire, histoire ecclésiastique, comme il le dénomme, donc au IVe siècle, qu'il décrit les événements. Après, ça commence à être assez subjectif. Où est-ce qu'il s'arrête cette histoire ? Où ça commence ? Si vous regardez le livre de Jérôme de Stridon, De Veris Illustribus, il commence par les apôtres, il s'arrête à lui-même. Ou si vous voyez plus tard Photius, il va beaucoup plus loin déjà dans l'Antiquité pour montrer qu'il y a ce que la philosophie était pour les Grecs, c'était la pédagogie pour préparation en Christ. Une première construction, c'est au IVe siècle, d'une histoire ecclésiastique, et après tout ce qui est aujourd'hui, ce que nous entendons histoire du catholicisme, de l'orthodoxie. C'est, je peux parler plutôt pour l'orthodoxie, c'est un phénomène assez tardif. l'apparition d'une histoire de l'Église. Vous avez des essais, mais c'est surtout vous allez trouver, après la chute de Constantinople, notamment une multiplication des histoires pour renforcer cette identité qui est sous domination étrangère, etc. Donc, il n'y a pas un moment où on peut situer l'apparition de l'Église, sinon, donc, pour moi, l'état apostolique. Et pour ce qui est de l'Écriture, le premier témoignage chez les pères de l'Église, c'est chez Eusèbe de Césarée. Voilà.
Moi, je dirais juste une petite chose très concrète à ce sujet, au niveau de cette question, c'est que quand même un bon nombre de protestants sont, là je vais me situer plutôt du côté de la branche protestante, sont gênés quand par exemple on dit mais oui, les églises issues de la réforme ou nées à la réforme. Nous ça nous gêne beaucoup parce que on se rattache nous aussi à l'église ancienne évidemment et on n'est pas né au XVIe siècle. Donc il y a parfois des précautions de langage qui sont importantes en fait, il faut en tenir compte. De même quand on parle de nos fondateurs aussi. Ça, c'est encore plus gênant, évidemment. Donc, quand on nous dit, par exemple, que Luther a fondé l'église luthérienne, c'est pas possible. C'est difficile à entendre. Mmh. Ou Menno Simon, pour les, vraiment, ça n'est pas vrai. C'est pas lui qui l'a fondé, mais quand bien même. Donc voilà, ça dit quelque chose quand même de très profond, je pense, sur le rattachement, enfin, sur cette manière dont on se sait rattaché à l'église ancienne. Oui.
Et je dirais qu'historiquement, il y a un vrai travail à faire. Je vais prendre un exemple. C'est le manuel de collège de 5e de mon fils, où il est question de la réforme, et l'intitulé des deux pages consacrées à la réforme protestante, y compris donc la réforme entre guillemets radicale, c'est « Luther fut le premier fondateur d'une église protestante ». C'est ce qui est une aberration historique. Voilà. Oui.
Une question sur donc, l'histoire dans le sens de l'unité.
Oui, je peux répondre à cette question. C'est en gros ce que j'essayais de dire, c'est-à-dire que quand j'employais l'expression, on est typiquement dans un de ces mots de vocabulaire entre guillemets qui s'imposent, quand j'employais l'expression de généalogie affirmative, au fond, l'histoire peut être lue de différentes façons. On peut poser simplement que ce qui s'est passé au XVIe siècle est arrivé parce que ça devait arriver. Bon, c'est une possibilité. Mais on peut aussi faire une histoire qui est une histoire du christianisme qui insiste sur les divisions et sur les raisons de ces divisions. Mais on peut aussi faire une histoire du christianisme, par exemple, qui reposerait, ce serait à faire, sur la volonté de retrouver l'unité. Moi, j'ai fait ma thèse de doctorat il y a quelques années déjà, sur ce qu'on appelait à l'époque un précurseur de l'unité, c'est-à-dire un théologien du XVIIe siècle qui a dit « mais cette division, il faut essayer de trouver une solution ». Et disons, ce type d'histoire-là, effectivement, me semble, va dans le sens de ce que vous disiez là, c'est-à-dire une histoire sensible à la question de l'unité et pas seulement de la division, qui a été celle qui a tenu le haut du pavé pendant longtemps.
Tout petit mot sur votre question. Oui, après le document du Confier la Communion, la commission de dialogue entre luthériens et catholiques a préparé un autre document qui s'est pas encore tout à fait finalisé sur baptême et croissance dans la communion. Donc l'idée, c'est comme il y a eu en 1999, comme vous savez, la signature de la déclaration commune sur la justification par la foi, donc le mandat qui était donné à la commission, c'était d'aborder maintenant les questions sur lesquelles on reste davantage divisé, c'est-à-dire les questions touchant l'Église et les sacrements. Et la porte d'entrée pour cela, c'est le baptême. Voilà. Donc j'espère qu'il en sera question dans les mois, ou en tout cas l'année prochaine ou plus tard.
Alors nous pensions terminer la soirée. Enfin, plus exactement dans cette salle, parce qu'elle va se poursuivre ensuite après, mais terminer dans cette salle en vous présentant très brièvement les activités de la chaire de théologie œcuménique ici au Centre Sèvres, et puis également entendre le père Luc Forestier, directeur de l'ICEO, nous présenter le colloque annuel. Donc, je vais être plus, vu l'heure, plus plus brève que prévu et de toute façon, vous avez les tracts devant vous. Donc, en, les activités principales de la chaire auxquelles vous êtes vraiment invités, si vous le souhaitez. Donc, il y a des cours visant, bien sûr, à faire découvrir nos différentes traditions. Donc, cela commence en particulier avec Ken Yamamoto, un théologien presbytérien, qui présentera Barthes et Bonhoeffer. Et puis ensuite, une autre manière de faire l'histoire de l'Église au XXe siècle, ce sera d'entendre les grands témoins œcuméniques qui ont marqué l'histoire œcuménique. Donc, ce cours sera assuré par le père Michel Fédoux et moi-même. Et puis ensuite, au second semestre, Goran Sekulovski nous présentera la tradition orthodoxe. Pendant que, à peu près, pendant que, au même moment, à une heure différente, donc on peut suivre les deux, Anne-Marie Petitjean présentera Luther et la messe, du conflit au dialogue. Enfin, je voudrais mentionner aussi un groupe de recherche dans cette chaire de théologie œcuménique, un séminaire de recherche qui a pour thème l'être humain dans les traditions chrétiennes, anthropologie théologique en perspective œcuménique. Donc, et ce groupe de recherche rassemble quelques théologiens, quelques théologiennes qui sont présents d'ailleurs ce soir, qui appartiennent à diverses églises et qui représentent plusieurs institutions universitaires. Donc voilà, quelques cours, une conférence et un séminaire de recherche. Donc, bien sûr, nous serons très, très heureux de vous y accueillir. N'hésitez pas à vous inscrire. Ça se fait très facilement en ligne, par exemple. Et puis sinon, bien, si le père Luc Forestier pouvait nous rejoindre.
Parce que c'est juste parce que c'est un peu compliqué d'arriver. Donc Luc Forestier, directeur de l'ISEO, qui est à l'Institut catholique de Paris, mais qui est porté par l'Institut protestant de théologie et l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge. Le professeur Chavel ici est assesseur protestant, le professeur Vidovitch est assesseur orthodoxe, elle ne peut pas être là ce soir. Et pour dire que donc chaque année nous organisons un colloque, le colloque des facultés, parce que c'est le colloque des trois facultés, donc du Theologicum de l'ICP, théologie orthodoxe Saint-Serge et de l'IPT, et que cette année c'est le 28-30 janvier prochain, et c'est sur la guérison. Voilà, et on peut là aussi s'inscrire en ligne facilement. Voilà, merci.
Merci Luc. Généralement, dans les temps œcuméniques, les soirées œcuméniques, il n'y a pas que les enseignements. Le temps souvent convivial ensuite est important pour pouvoir se rencontrer, discuter. Pourquoi pas continuer telle ou telle conversation, telle ou telle question avec les intervenants, mais qui ont peut-être enfin plus de repos, mais en tout cas qui sont disponibles pour ça. Donc oui. Voilà, oui c'est ça. Donc nous sommes tous attendus. À côté, à l'espace Chanot, où un temps convivial nous attend tous. Mais auparavant, je voudrais encore remercier Pierre-Olivier Leschaud et Goran Sekulovski pour leur participation ce soir et puis pour, bien sûr, votre venue à tous.
Je remercie aussi la communauté du Chemin Neuf qui a aidé à la préparation du temps convivial qui va se dérouler maintenant.